les Assises du Grand Paris, organisées par le Journal du Grand Paris, mardi 18 avril 2023 sur Radio Imo.
Les Assises du Grand Paris, c'est toute la journée au sein de la FNAIM qui nous héberge dans ce magnifique hôtel particulier. On est en compagnie de Pierre Bibé. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de la FPI Île-de-France. La FPI qui n'en finit plus de pousser des cris d'alarme. C'était depuis juillet votre congrès à Strasbourg. Et depuis, on ne peut pas dire que les choses se sont réellement améliorées sur le front du logement.
Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, le congrès, c'était l'année dernière, mais ça fait un peu plus de 3 ans et demi qu'on pousse un peu un petit cri d'alerte. D'abord, sur la production, car depuis 2019, oui. Notre production de logements collectifs s'effondre assez drastiquement. Donc, on connaît exactement ce qui bloque, hein, mais c'est vrai qu'en 2018, en Île-de-France, on produisait 34 000 logements. En 2019, on en a produit 28 000. Et puis 2021 et 2022, on en a produit chaque année 23 500. Donc on voit bien qu'on chute drastiquement. C'est 10 000 logements en moins par rapport à 2018. Donc c'est assez énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis notre congrès, ce qui a changé, c'est que la chute, on constate une chute vertigineuse de la demande depuis un an.
Oui, on explique parce que la demande, c'est quoi? C'est les gens qui ont quand même envie d'acheter, mais des conditions de crédit qui sont tellement resserrées qu'aujourd'hui, c'est pas mission impossible, mais presque, pour beaucoup de gens.
Oui, pour être plus précis, ce qu'on constate, c'est l'augmentation un peu pharaonique de l'incapacité des ménages, c'est-à-dire oui. De nous tous, de vous, de moi, de tous ceux qui nous écoutent, à obtenir un prêt bancaire pour acheter un logement. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, on ne gagne plus assez cher. Oui. Ouais. Pour pouvoir répondre aux obligations finalement des banques. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'on fige la capacité des ménages à investir, mais surtout on les gèle dans leur logement actuel, on les rend incapables d'aller ailleurs et donc du coup d'adapter leur lieu de vie à leur mode de vie. On change toujours aujourd'hui au XXIe siècle, on change tous les jours de mode de vie. Je dis tous les jours, mais c'est
enfin, plus rapidement, c'est vrai
on
que...
Avant,
surtout avec l'éruption du télétravail qui a aussi bouleversé un petit peu la dôme. En tout cas, il y a eu une bataille assez homérique sur le taux d'usure l'an dernier. Ça y est, ça a été mensualisé, assoupli. Tout n'est pas réglé parce que les taux continuent à monter. Finalement, les banques avec ce taux d'usure, il faudrait qu'elles soient peut-être pratiquement hebdomadaires pour pouvoir suivre la cadence. Deux nouvelles propositions sont sur la table. Conjointement, la FPI et la FFB ont demandé notamment au HCSF peut-être d'assouplir un petit peu les conditions. Où on en est?
Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément de retour de cela. C'est vrai que nous, on demande notamment que cet assouplissement soit jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on a tout un tas de mesures assez faciles et urgentes que l'on demande. Par exemple, il faut très rapidement trouver les mécanismes pour flécher une partie de la TVA immobilière aux budgets communaux, aux budgets des villes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi que ceux qui freinent les délivrances de permis de construire, ce sont les incapacités ou le manque de visibilité des maires quant à leurs ressources financières
oui.
après l'accueil de nouveaux habitants et donc de nouveaux projets. Et ça a été possible, il y a eu des véhicules possibles de fléchage de TVA ou fléchage de fiscalité directement pour les communes pendant la période Covid. On a tous fait des choses extrêmement bonnes pour notre vie pendant le Covid.
Oui, oui.
Ben, ça, c'était une chose qui était bonne pour l'économie et je pense qu'il faut peut-être s'y pencher.
Donc, vous demandez aujourd'hui que cette TVA, elle soit pérennisée, elle soit...
Enfin, oui, une partie de cette TVA. Fléchée. Vous savez, en France, aujourd'hui, le logement, tout confondu, hein, mais le logement, c'est 88 milliards de recettes fiscales. Alors certes, on réinjecte 38 milliards d'euros parce qu'on veut réanimer un peu le malade, donc on réinjecte 38 milliards d'euros.
Vous dites 1 euro pour deux. Alors on simplifie pour nos auditeurs, 40 milliards grosso modo d'enveloppe fiscale, de primes, d'aides,
exactement.
En général, mais 80 à 90 milliards
exactement.
De retour finalement sur investissement, c'est plutôt rentable pour l'État. Pourquoi il n'y a pas cette volonté d'aller plus loin?
Bah c'est 50, finalement 88 moins 38, c'est 50 milliards. Donc grosso modo, à grosse maille, hein, c'est 50 milliards d'euros pour l'État qui vient du logement de façon globale. Je l'ai dit tout à l'heure, mais si je veux être un peu rural, le logement, c'est une vache à lait fiscale pour l'État. Et pour être un petit peu plus urbain et peut-être un petit peu plus correct, pas forcément plus correct, mais le logement, c'est vraiment la capacité pour l'État d'avoir un pognon de dingue. Parce que 50 milliards d'euros, c'est énorme. Et donc, il faut s'en occuper. On n'a pas le droit de laisser un peu ça sous le tapis. Et le logement, ce n'est pas uniquement une rente, ce n'est pas uniquement une dépense. En fait, derrière, pour un peu humaniser mes propos, parce que c'est vrai que les milliards d'euros, les recettes fiscales, etc., bon, ça nous dépasse aussi un petit peu. Mais pour humaniser un peu le sujet, c'est que vous, comme moi, on paye quasiment un tiers de nos dépenses mensuelles dans notre logement. C'est énorme.
Oui, c'est une dépense contrainte, c'est la plus importante. Sauf qu'on s'oppose à peut-être une idéologie en ce moment qui est de ZAN, et pourquoi pas, hein, la planète, il faut s'en occuper aussi, y contribuer, et c'est-à-dire essayer de moins construire, ou mieux, ou plus durable, ou plus bas carbone. Et on a l'impression que dans certaines communes, dans certaines villes, ce besoin ou cette idéologie rentre en conflit justement avec le côté pragmatique de « il faut se loger ».
Alors, en Île-de-France, la production des promoteurs, elle se passe quasiment à 50% au sein de la métropole du Grand Paris,
oui.
Donc en zone dense. Donc finalement, sur un territoire qui est déjà artificialisé. Finalement, le ZAN, nous, on est en train de faire une étude dans nos promoteurs franciliens. Pour l'instant, c'est pas représentatif, mais pour l'instant, on a récolté 56 projets de 2022. C'est grosso modo 1500 logements. Sur les 56 projets, 75% des projets n'artificialisent pas.
D'accord. Donc
48%,
c'est sur des friches ou
on renoue
sur la ville.
Exactement. 48% des projets sont ZAN. Et pire encore, 91%.
Mieux encore.
Oui, et pire, non mais mieux encore, pardon, 90%, non mais parce qu'on parle beaucoup des externalités positives, les aménités vertes pour, qui sont amenées aussi par ces projets de construction.
On remet du végétal.
Exactement.
Effectivement, dans des projets où il y avait des friches, avant un parking par exemple qui est reboisé.
Exemple, en moyenne, 420 mètres carrés par opération sont dédiés aux toitures végétalisées ou aux terrasses végétalisées.
D'accord.
Dans ces 56 projets, alors j'insiste parce que c'est pas représentatif, 91% des projets, on plante des arbres. Une trentaine en moyenne par opération. Donc en fait, nous, le sujet du ZAN, de l'artificialisation, etc., je vais pas dire que c'est un non-sujet parce que ça serait un peu fort, mais il n'empêche qu'on est déjà... On est déjà dans cette trajectoire de manière naturelle en zone dense. Je vais aller aussi un petit peu dans le détail de ces premiers résultats. Si on retire les ZAC de ces 56 projets, les zones d'aménagement concertées, donc portées par le public, on a artificialisé 1000 m² sur ces 56 projets.
D'accord.
Dès qu'on intègre les ZAC, on arrive à peu près de mémoire 15 000 m². Donc déjà, c'est très peu, même en ayant les ZAC, mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on a un projet en ZAC, donc porté par un aménageur souvent public, donc sur du foncier maîtrisé, sur des cahiers des charges maîtrisés, c'est là qu'on artificialise le plus. Mais c'est normal, puisqu'on est un peu plus en zone, on est un peu plus déconnecté des zones denses, et donc, effectivement, les ZAC artificialisent. Mais ce que je veux dire, et j'insiste, hors ZAC, sur 56 projets, on a artificialisé 1000 m².
Donc c'est possible, effectivement, du faire... du ZAN respecté, en tout cas ce ZAN, et quand même bâtir, continuer à pouvoir loger les Français.
C'est compliqué, mais c'est possible.
C'est compliqué, c'est mais c'est possible. Dernière question, Pierre Bibé, donc vous êtes ici aujourd'hui aux Assises du Grand Paris, avec le journal du Grand Paris qui va donc organiser ces différentes sessions jusqu'à la restitution le 14 novembre. Vous allez participer, vous allez vous-même contribuer et mettre en forme ces propositions dont vous venez de nous faire part.
Oui, bien sûr, on va travailler avec l'ensemble des personnes qui sont intervenues autour de la table ronde qui forme finalement un groupe de travail. Et c'est vrai que nous, on va essayer notamment d'aborder le sujet du plan local d'urbanisme qui est pour nous dépassé, inadapté. J'ai dit tout à l'heure qu'il date de la loi SRU, c'est-à-dire qu'il a plus de 20 ans. Ça ne veut pas dire que toutes les choses qui sont âgées ne sont plus applicables, mais c'est juste que ce n'est plus adapté à la ville d'aujourd'hui, au XXIe siècle. On disait tout à l'heure qu'on décohabite, on a des enfants, on recompose nos familles, on est célibataire. Enfin, tout ça fait qu'on change et on évolue notre vie et donc notre pratique au logement. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on constate, on a eu un maire tout à l'heure autour de la table ronde, mais... on constate que dans toutes les communes, on crée des chartes. Chartes promoteurs, certes, mais chartes de l'arbre, chartes du bruit, chartes de la démocratie locale, etc., etc. On accumule des chartes qui ne sont finalement pas opposables, c'est-à-dire qui n'ont aucun point réglementaire, alors même que l'on dispose aujourd'hui d'un PLU qui est, dans sa définition un peu simple, la possibilité pour un maire de faire un projet d'aménagement global de sa ville. Donc finalement, de traiter tous ces sujets-là, même de la démocratie locale, même de la participation et de l'acceptation de son projet justement d'aménagement, sa vision d'avenir pour 10 ans de la ville.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut arrêter justement ces chartes à droite à gauche, mais plutôt respecter finalement ce qui existe et le mécanisme qui existe déjà.
En fait, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver le meilleur document de planification. L'urbanisme, c'est toujours géré par la planification. On a créé la DATAR après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans cet élan de reconstruction du pays. C'était pour planifier cette reconstruction. Et aujourd'hui, on manque d'un document de planification du 21e siècle. On ne parle pas d'espace public, on ne parle pas justement de l'arbre, des arbres, des espaces publics, des espaces de respiration. On ne parle que combien de mètres carrés pour un salon et combien de mètres carrés pour des toilettes. Et ça, à mon sens, on se plante. Si on traite le sujet du logement uniquement dans son prisme intérieur. Quand on habite dans un logement, on y sort assez souvent.
C'est vrai, tout à fait, bien dit. Eh bien, écoutez, on sera ravis de suivre, en tout cas, à vos propositions, la FPI, FPI Île-de-France notamment. Pierre Bibet, merci. Je rappelle que vous en êtes le délégué et on attend vos différentes propositions sur l'antenne de Radio Immo. À très bientôt.
À bientôt.
Les Assises du Grand Paris, organisées par le Journal du Grand Paris, mardi 18 avril 2023 sur Radio Immo.